Et c'est le moment d'accueillir la pasteur du foyer de l'âme, Dominique Hernandez, mais qui est là d'abord pour donc ouvrir ce cycle de culte conférence avec un thème qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre dans nos temples, intriguant, les faux plis sexistes dans la lecture de la Bible. Dominique, merci beaucoup d'être avec nous.
Eh bien, puisque, chers amis, les disponibilités des invités, des trois invités à ce cycle 2023 des cultes conférences du foyer de l'âme m'ont conduite à en être la première intervenante, j'en profite aussi, comme Jérôme l'a fait à l'accueil du culte, pour soutenir, en commençant, la présence de ce point d'exclamation dans l'intitulé du cycle « Hommes et femmes, il les créa en égalité », point d'exclamation. Et c'est bien une affirmation, c'est un manifeste, une conviction fondamentale parmi celles qui construisent non seulement le foyer de l'âme, mais l'Église protestante unie de France, même si ce n'est pas exclusif. Et cette conviction a trouvé un épanouissement lorsqu'il y a plusieurs années, le synode national de l'Église, qui était à l'époque l'Église réformée, l'instance du gouvernement de l'Église, a décidé que les femmes pouvaient être reconnues comme pasteurs de l'Église au même titre que les hommes. Alors, il faut du temps pour que cette reconnaissance s'inscrive sans restriction dans les mentalités, et il y a encore dans nos églises, dans l'Église protestante unie de France, il faut le dire très simplement, encore de vieux réflexes sexistes et patriarcaux des uns, des autres, ou des unes et des autres. Ceux-là n'ont pas tous disparu, mais l'accès des femmes au ministère pastoral n'est plus une question, c'est la réalité indiscutable. Et c'est de là que je peux parler. Non seulement aujourd'hui, mais le dimanche et dans bien d'autres occasions. C'est de là que je peux parler avec infiniment de gratitude envers celles et ceux qui ont eu le courage d'ouvrir la réflexion et puis le chemin. Ce n'est pas si ancien, 1966, et ce n'était pas si évident pour que nous nous permettions d'oublier les difficultés que les femmes des églises luthéro-réformées ont eu à affronter pour que ce jour advienne enfin. Et cela nous engage en solidarité avec toutes les femmes des autres églises qui cherchent à ce que leur dignité soit aussi également reconnue dans leurs propres institutions et lieux d'église. C'est par fidélité à l'Évangile que l'Église se réforme, un des principes d'origine de la réforme protestante. Et cette fidélité est évaluée, interpellée par les recherches des différentes disciplines de la théologie, et elle est sollicitée par l'évolution des sociétés et du monde. Et ça a été cette circonstance-là aussi pour la question de l'accès des femmes au ministère. Non que l'Église soit à la remorque des évolutions de la société, mais elle se doit de les entendre, de les questionner et de se laisser questionner par elles. Puisque l'Église, et c'est aussi une conviction importante de l'Église protestante unie de France et de bien d'autres, l'Église ne doit pas être repliée sur elle-même, sur ses principes, son organisation, ses institutions, ses traditions, son fonctionnement ou sa continuité, mais elle n'est Église qu'en étant ouverte et en prise sur le monde pour y porter une parole, une bonne nouvelle, des questions et des propositions quant à la manière d'être humain, homme ou femme, homme et femme ensemble sur cette terre. Et je voudrais d'abord rendre hommage à deux femmes. La première, qui est effectivement la première à avoir recherché dans la Bible de manière assez très systématique et en les étudiant très profondément, la première à avoir cherché dans la Bible tous les textes concernant les femmes, pour les étudier donc de manière approfondie, pour comprendre ce qu'il en était vraiment de l'androcentrisme et du patriarcat dans les livres bibliques largement utilisés pour maintenir les femmes dans des positions de mineures et de subordonnées. Elizabeth Cady Stanton, avec une vingtaine de femmes, lectrices exigeantes des Écritures, a publié en deux temps, en 1895 et en 1898, The Woman's Bible. Elizabeth Cady Stanton soutenait que non seulement les textes bibliques ont été écrits par des hommes, mais qu'ils reflètent leurs intérêts d'hommes au détriment des femmes. S'insurgeant contre la conception de la Bible comme parole de Dieu directement révélée, elle écrivait « Le seul point sur lequel je diverge par rapport à tout enseignement ecclésiastique est que je ne crois pas qu'aucun homme ait jamais vu Dieu, ni ne lui ait parlé. » Et elle écrivait plus loin « La Woman's Bible parvient à la lectrice moyenne comme une véritable bénédiction. Elle lui dit que ce n'est pas le bon Dieu qui a écrit le livre, que la scène du jardin est une fable, qu'elle n'est en aucune manière responsable des lois de l'univers. Les savants et les chercheurs chrétiens ne lui diront pas cela, car ils voient en elle la clé de la situation. Si vous enlevez du tableau le serpent, l'arbre fruitier et la femme, il n'y a pas de chute, pas de juge mécontent, pas d'enfer, pas de châtiment éternel, pas de nécessité d'un sauveur. Ainsi, c'est faire fondre la base de toute la théologie chrétienne. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les recherches critiques bibliques de haut niveau, les spécialistes ne touchent jamais à la position des femmes. » Donc, 1895, la Woman's Bible a connu un immense succès dès sa parition et elle a été plusieurs fois rééditée dès 1895, avant même la seconde, enfin, l'ensemble paru en 1898. Et la seconde femme que je veux citer ici est une théologienne catholique, professeure de théologie aux États-Unis, Elisabeth Schussler Fiorenza, qui fit paraître en 1983 un ouvrage traduit et publié en France en 1986 sous le titre « En mémoire d'elle ». Ce vaste travail portait en sous-titre « Essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la théologie féministe ». Elle écrit à partir du début du récit de la Passion dans l'Évangile de Marc, récit dans lequel une femme anonyme vient oindre de parfum la tête de Jésus, un geste qui provoque la critique des disciples, les 12 hommes, et une réponse extraordinaire de Jésus. « En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé l'Évangile dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire d'elle ce qu'elle a fait. » Il me semble que cette femme est pourtant rarement citée dans les premiers mots, dans les premières phrases, lorsque un chrétien ou une chrétienne se met à proclamer l'Évangile. Elisabeth Schussler-Fiorenza démonte les mécanismes du patriarcat qui a invisibilisé les femmes dans l'Église primitive, alors même que le Jésus des Évangiles et Paul dans ses lettres annoncent comme bonne nouvelle l'égalité de dignité des hommes et des femmes. La théologie féministe est clairement, avec Elisabeth Schussler-Fiorenza, théologie de la libération. Grâce à la mise en œuvre de l'outillage historico-critique pour lire la Bible, et en considérant à la fois l'interaction entre le texte biblique et la communauté qui le produit, et l'interaction entre le texte biblique et la communauté qui le lit. Elle écrivait « En tant que modèle de base de la vie et de la communauté chrétienne, la Bible reflète la force des femmes bibliques aussi bien que leur victimisation. Une théologie de la libération chrétienne féministe doit cesser de chercher à sauver la Bible de ses critiques féministes. Elle doit soutenir que la source de notre pouvoir est aussi la source de notre oppression. » Il s'agit donc de lire la Bible. Cette bibliothèque de livres écrits par des hommes et interprétés selon les cultures et des traditions patriarcales, ce qui était déjà le cas de leur milieu de rédaction, dans leur diversité, et aussi dans la diversité de leur époque de rédaction, laquelle recouvre quand même entre 9 et 10 siècles. Il faut remarquer, il faut dire, que la recherche exégétique avance depuis plusieurs années que certains livres de la Bible pourraient avoir été rédigés par des femmes. Ainsi, le Cantique des Cantiques, dans la Bible hébraïque, une hypothèse soutenue par le fait que la place de l'amante y est prépondérante par rapport à celle de l'amant. C'est elle qui s'exprime le plus et c'est elle qui invite son amant à la rejoindre. Et d'autres exégètes, dès 1975, avancent qu'il pourrait en être de même pour l'évangile selon Marc, dans le Nouveau Testament. Et le livre du professeur François Vouga et de Carmen Burkhalter, paru en 2021, « L'évangile d'une femme », offre dans cette perspective une interprétation lumineuse de l'évangile, cet évangile qui reconnaît aux femmes une place particulière, aussi bien dans sa manière de les mettre en scène dans différents épisodes, par exemple celui de la femme souffrant d'hémorragie, que par le rôle des femmes disciples de Jésus. Et les deux auteurs appuient cette hypothèse sur l'existence d'une littérature féminine au premier siècle de notre ère, pas seulement dans le christianisme, dans toute la société. Au premier siècle donc de notre ère, une particularité qui a disparu dès le deuxième siècle. Je vous propose trois parties pour mon exposé. Le premier sur les faux plis dans l'établissement du texte biblique. Le deuxième sur les faux plis internes au lecteur. Et puis en troisième partie, nous verrons deux exemples. Alors pour commencer, les faux plis dans l'établissement du texte. Car la première difficulté, la première opposition à l'égalité entre les hommes et les femmes est posée avant que nous recevions une Bible, que nous l'achetions en français. Car ces textes, il a fallu les traduire et les éditer, c'est-à-dire les mettre en forme et en page. Rappelons que les textes bibliques ne proviennent pas d'originaux, il n'en existe aucun, mais que les textes traduits proviennent d'un consensus établi à partir de la masse des manuscrits et papyri retrouvés, conservés, copiés, recopiés au fil des siècles, avec nombre de variantes de l'un à l'autre, témoignant à la fois de différentes traditions, d'interprétations aussi des copistes, de leur bonne volonté plus ou moins heureuse, et parfois aussi d'erreurs de copie. Par exemple, le tristement célèbre passage de la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 14, vous savez, celui qui dit que les femmes se taisent dans les assemblées, eh bien, ne se trouve pas dans le très respecté Codex Vaticanus, et il est considéré, cet extrait, par beaucoup comme un ajout ultérieur aux lettres de Paul. Ce n'est pas seulement ce qui autorise la parole des femmes, et ce n'est pas non plus seulement grâce à cela que la sentence paulinienne n'est plus partout appliquée. Donc nous disposons d'un texte en hébreu et d'un texte en grec, et quatre points particuliers sont à relever, enfin du moins ce sont ceux que j'ai relevés. Le premier, c'est celui de la traduction, qui est un travail aussi exigeant que délicat. Et vous le savez, un choix se pose toujours au traducteur. Pour un seul terme hébreu ou grec, plusieurs possibilités se présentent. Cette épaisseur de sens est à la fois une chance et un risque. Une chance parce qu'elle déploie un espace d'interprétation, ce qui est beaucoup plus vivifiant et stimulant qu'un choix unique, et un risque parce que le traducteur y engage son propre arrière-fond de culture, de pensée et de théologie. La traduction devient donc le premier lieu de discrimination entre femmes et hommes, et vous devinez que c'est le plus souvent, si ce n'est toujours, au détriment des femmes. Non que les traducteurs soient exclusivement des hommes, même s'ils l'ont été pendant longtemps. Depuis la Septante, la traduction grecque de la Bible hébraïque, et puis Jérôme, le traducteur de la Vulgate, la Bible en latin, Martin Luther, le traducteur de la Bible en allemand, jusqu'au traducteur d'aujourd'hui, puisque la Bible est toujours traduite à nouveau. Cependant, même des femmes traduisant la Bible l'ont fait et le font depuis leur propre imprégnation d'une culture patriarcale et androcentrique, ou depuis une institution minorant la place des femmes, depuis un point de vue inconscient ou indiscuté d'inégalité. Les faux plis sexistes de la Bible dans la lecture de la Bible commencent là, dès la lecture de l'hébreu et du grec, pour établir une traduction. Par exemple, un mot grec présent donc dans le Nouveau Testament, sophrosuné, dans la très grande majorité des traductions françaises, sophrosuné est traduit de deux manières, une pour les hommes, et une pour les femmes. Lorsque l'apôtre Paul l'emploie pour parler de sa parole, de ses discours, eh bien, il les caractérise par la sophrosuné. Et alors, la traduction parle de sagesse du discours de Paul. Dans quelques autres cas, elle parlera de maîtrise de soi de tel ou tel homme. Mais lorsqu'il s'agit d'une exhortation et même d'un commandement adressé aux femmes par l'auteur de la première épître à Timothée, eh bien, il est question de modestie, de pondération, de pudeur, une manière efficace de rendre les femmes discrètes. Aux hommes, la sagesse et la maîtrise de soi comme vertu remarquable, et aux femmes, la modestie comme vertu pour ne pas se faire remarquer. Les hommes devant et les femmes derrière. Et qui pourra dire exactement à quel point le monde a souffert de cette répartition ? J'ouvre une petite fenêtre au sujet de la traduction concernant le titre de ce cycle de culte conférence « Hommes et femmes, il les créa ». Certains de vous ont peut-être reconnu un verset du premier chapitre du livre de la Genèse, verset 27. Le texte hébreu ne mentionne pas l'homme, homme et femme. Il est écrit « Et Dieu créa l'humain en son image, en l'image de Dieu, il le créa ». Mâle et femelle, il les créa. Alors, d'une part, avec ces termes spécifiques, mâle et femelle, l'humain se trouve en grande proximité avec les animaux également créés le même jour juste avant. Mais surtout, ce qui importe dans la perspective de l'auteur, c'est la fécondité. C'est la multiplication, le foisonnement, la diversité, celle des plantes, des poissons, des oiseaux, des animaux terrestres et des humains. La fonction de la reproduction de l'espèce est mise en avant, ce qui est explicite au verset suivant. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez-vous et remplissez la terre. En effet, la bénédiction projette ses bénéficiaires vers une descendance, c'est-à-dire dans la mentalité des Hébreux, vers un avenir. Ce n'est pas pour préserver les espèces au sens où on l'entend actuellement, hein. Mais c'est une dynamique d'avenir qui est ainsi impulsée par le Dieu dont parle le poème. La plupart des traductions françaises interprètent les termes hébreux « mâle et femelle » par « homme et femme ». C'est une interprétation. Mais cela élargit la focale de la reproduction à l'ensemble de la vocation signifiée par l'expression « à l'image de Dieu, à sa ressemblance ». C'est-à-dire qu'il s'agit de l'homme, pour l'homme comme pour la femme, de lutter contre le chaos et de favoriser tout ce qui permet la vie abondante, foisonnante et diverse. Cela rend le lecteur plus sensible à cet aspect du poème, la destinée de l'humanité dans le monde considérée comme don et comme bon. Cette destinée à la fois appelle à la gratitude, à la liberté par rapport aux idoles et à la responsabilité, est offerte également de manière égale aux femmes et aux hommes, sans supériorité des uns sur les autres. Le deuxième point concerne le langage, et tel que nous en usons couramment, quotidiennement. Un langage qui pourrait être hospitalier au genre féminin, c'est-à-dire pour tout être humain. Parce que la langue française donne la prééminence au genre masculin dans les accords de genre, et un masculin qu'elle considère aussi comme le neutre quand il s'agit d'un collectif. C'est-à-dire que la langue française absorbe le féminin dans le masculin au point qu'elle donne à entendre, à penser, à dire et à voir un monde d'hommes. Seulement. Il y a pourtant bien en français deux mots, homme et humain ou être humain, qui sont également connus dans la langue hébreu et dans la langue grecque. Et lorsqu'on traduit systématiquement le humain hébreu ou grec par homme dans les Bibles en français, eh bien cela participe à la non-considération des femmes et à leur disparition du texte et de la pensée. Nous y reviendrons tout à l'heure. Faire l'effort dans la traduction de ne pas masculiniser le texte à outrance, comme si c'était la seule manière de le lire, est un défi dont les traducteurs des textes bibliques ne sont pas forcément conscients s'ils n'y sont pas particulièrement sensibilisés. Et nous-mêmes, nous n'y sommes pas toujours sensibilisés. L'homme ne peut être le générique de l'humain qu'en éclipsant la femme, en l'invisibilisant. Une traduction hospitalière et reconnaissante ouvre, par le texte, un monde où chacune et chacun peut prendre place sans savoir, sans avoir à se justifier. Par exemple, parler des personnes au lieu de parler des hommes. La théologienne baptiste Valérie Duval-Poujol, autrice du livre « La Bible est-elle sexiste ?» et qui est directrice de projet pour de récentes nouvelles traductions de la Bible, insiste particulièrement sur cette traduction hospitalière, traduction épicène, en opposition à la traduction genrée où le masculin s'impose. Et dans le même ordre d'idées, ce n'est pas non plus trahir le texte biblique que d'ajouter « sœur » à « frère » lorsque Paul interpelle les Corinthiens ou les Galates, car l'apôtre s'adressait aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Il m'arrive régulièrement de le faire ici, parce qu'il n'y a aucune raison que les femmes aient à faire un effort, un raccord, pour se dire « moi aussi, je suis concernée » en écoutant « vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés » dans l'Épître aux Galates. Le troisième point concernant l'édition, ce sont les intertitres qui sont présents dans de nombreuses éditions. Ils ne font pas partie du texte biblique, mais ils servent de repère lors de la lecture et présentent une manière de résumer le passage. Seulement, ils ne sont pas anodins, parce qu'on s'en sert tellement qu'ils s'impriment facilement dans les esprits et parce qu'ils finissent par orienter la lecture avant même qu'elle soit commencée. Dans ma Bible de confirmation, une traduction seconde bien protestante, il n'y a pas d'intertitre à l'intérieur du texte, mais ils sont en haut des pages, de chaque page. Et donc j'ai lu pendant longtemps, sur la page des chapitres 2 et 3 de l'Épître aux Éphésiens, « Le chrétien vivifié et sauvé par la grâce ». Et pas la chrétienne ? Il y a pourtant bien une manière non genrée de titrer la page, ne serait-ce qu'avec un simple « La grâce sauve et vivifie ». Ou encore au chapitre 11 du deuxième livre de Samuel, repéré en haut de la page par un paisible David et Bethsabée. Comme si Bethsabée et David avaient agi de concert, en bonne entente, voire en amoureux. Alors que le chapitre donne à lire un récit de prédation et de meurtre. Un récit dont les traductions en français édulcorent grandement, gravement, la violence dont est victime Bethsabée, violence dont les termes hébreux rendent pourtant bien compte. Ainsi que le relève Catherine Vial, une autre théologienne catholique, dans un des chapitres de l'ouvrage collectif « Une Bible des femmes », s'il est d'usage de parler de femmes fatales et d'en trouver moult exemples dans la Bible, surtout quand on est un homme, voire même un père de l'Église, il serait tout à fait possible de qualifier le roi David d'homme fatal, selon la définition habituellement au féminin, mais que voici au masculin, un homme dont le comportement conscient ou inconscient vise à amener la femme à sa déchéance ou à sa perte ou à la placer dans une situation humiliante. En France, 219 000 femmes sont en moyenne victimes chaque année de violences commises par leur ancien ou actuel partenaire. Enfin, quatrième point concernant la traduction et l'édition, le découpage et l'usage des textes. Et là, je vais vous parler d'Éphésiens 5, versets 20 à 22. Vous connaissez tous. Femmes, soyez soumises à vos maris. Une formule bien pratique pour étouffer toute tentative de vivre dans la dignité, la responsabilité et la liberté, comme si cela n'était réservé qu'aux hommes. Sauf que ceux qui agitent cette formule comme une arme devraient regarder le texte de plus près, car il n'est pas écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». La phrase commence ainsi. « Vous soumettant les uns aux autres, et là c'est les hommes et les femmes, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ, les femmes au propre mari comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme, comme aussi le Christ est la tête de l'Église, le sauveur du corps. » Oui, c'est du Paul, c'est un peu compliqué. « Mais comme l'Église est soumise au Christ, ainsi les femmes au mari en tout, les maris, aimez vos femmes, comme aussi le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Les femmes ne sont jamais le sujet direct du verbe « soumettre ». Il n'y a aucun décret divin stipulant que les femmes doivent être soumises à leur mari. Il peut y avoir seulement en la matière un décret masculin absolument discutable. Car la réciprocité de soumission qui gouverne l'ensemble du passage n'admet pas, elle, d'exception. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Sans oublier l'exhortation faite aux maris d'aimer leur femme comme le Christ a aimé l'Église. C'est quand même quelque chose, hein, d'aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Lorsque la soumission est mutuelle, personne ne domine. Personne ne place qui que ce soit sous un joug. Personne n'humilie personne. Il y a là une forme respectueuse, une relation respectueuse de chaque être humain, homme ou femme. Et l'auteur d'Éphésiens évangélise les relations entre les personnes, entre les époux et les épouses, et dans la suite de la lettre, entre les enfants et les parents, entre les maîtres et les esclaves, comme il évangélise les institutions et les conventions sociales et religieuses de son temps, ce que, en Église, nous nous efforçons de faire encore et toujours. En deuxième point, je vous ai donc indiqué les faux plis précédant la lecture, c'est-à-dire les faux plis qui sont internes au lecteur. La Bible donne à lire dans son ensemble des textes réduisant les femmes dans une place secondaire et des textes mettant en avant des femmes qui prennent leur responsabilité d'être humain, appelées à une vocation de vie et qui interviennent de manière à infléchir une situation quand elle semble bloquée ou perdue pour une ouverture d'avenir. Par exemple, je vous renvoie aux quatre femmes de la généalogie de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Les lecteurs, les lectrices croisent dans la Bible des femmes soumises par la force des hommes et des femmes occupant des fonctions et des rôles habituellement dévolus aux hommes, des prophétesses, des chefs de guerre. Ils y rencontrent aussi, ces lectrices et lecteurs, des hommes agissant avec une extrême brutalité envers les femmes et d'autres faisant preuve d'estime, de respect et d'attention. Par exemple, Boaz, qui épouse Ruth, et en particulier dans le Nouveau Testament, Jésus de Nazareth. Les témoignages des évangiles d'une égalité de considération des femmes et des hommes par Jésus sont particulièrement bien mis en évidence par Elisabeth Schussler-Ferenza et après elle par beaucoup d'autres, des hommes et des femmes sensibles à l'équilibre, à l'impartialité et aux soins avec lesquels l'homme de Nazareth regarde et parle aux unes et aux autres. Cette subversion des usages traditionnels et patriarcaux ainsi que des convictions qui les portent veut lever le contrôle que les prescriptions religieuses et sociales font peser sur les hommes, mais encore plus sur les femmes, comme elles s'élèvent contre la pauvreté. Et vous savez que toujours, femme et pauvreté sont deux mots bien trop souvent associés. Malheureusement, un retour à l'ordre traditionnel et patriarcal s'est opéré très tôt, à la fois par souci d'inscription des chrétiens et des chrétiennes dans la société de l'Empire et par la reprise en main des hommes face à l'émancipation des femmes provoquée par l'Évangile. Alors, deux figures particulières, deux femmes nommées Marie dans le Nouveau Testament, la mère de Jésus et Marie de Magdala. Le personnage de Marie, la mère de Jésus, est diversement dessiné dans les quatre évangiles, seule sa présence au pied de la croix est commune aux quatre textes. Marc se montre critique vis-à-vis de la famille de Jésus, sa mère y compris, parce que cette famille ne comprend pas la mission de Jésus. Matthieu, dans le récit de naissance de Jésus, focalise plus sur Joseph que sur Marie, qui est néanmoins une figure de la grâce agissante. Jean la présente comme une figure symbolique de l'Israël qui entre dans la foi au Christ et au Messie. Et pour Luc, Marie est celle qui répond un oui libre et joyeux au bouleversement que la grâce vient produire dans sa vie, jusque-là si bien tracé à l'avance. Et ce bouleversement, ce renversement est élargi à la dimension de l'histoire et du monde dans le cantique chanté par Marie. La jeune fille y reprend à sa manière les appels des grands prophètes de la Bible hébraïque. Marie représente donc ce que l'irruption et la subversion de la grâce produisent dans une existence, somme toute, très ordinaire. Et les deux récits de Matthieu et de Luc annonçant que la jeune fille vierge va enfanter veulent expliciter de manière symbolique que l'enfant qui va naître est exceptionnel, fils de Dieu, envoyé par Dieu, le Messie, le Christ. C'est une manière, cette annonce que la jeune fille vierge va enfanter, c'est une manière de faire de la christologie et pas de l'anthropologie. Cependant, la figure de Marie va prendre une ampleur que les textes bibliques ne présupposent pas. D'évangile apocryphe en légende, de concile en dogme, la voici devenue mère de Dieu, perpétuellement vierge, conçue elle-même d'une manière tout à fait miraculeuse, enlevée au ciel à peine morte. Une femme d'exception, et devant laquelle les ordinaires femmes de la terre ne peuvent que s'incliner une fois de plus, parce qu'il est bien connu que l'exception confirme la règle pour les autres. Entre la figure d'Ève, cette tentatrice responsable du malheur de toute l'humanité, et celle de Marie, l'éternelle immaculée, ce n'est pas que les femmes soient écartelées, c'est qu'elles n'ont aucun choix. Et ne soyons pas dupes, il n'est pas seulement ici question de théologie, mais aussi du sexisme qui imprègne cette théologie pour faire peser sur les femmes le poids de la supposée faute d'Ève, qui de toute manière n'est pas la leur personnellement, et le poids de la perfection de Marie qui leur reste à jamais inaccessible. Et la lecture en pâtit. La lecture en pâtit, qu'elle soit imprégnée de révérence ou de méfiance, selon ce qui se sera diffusé au préalable dans l'esprit des lectrices et des lecteurs. En ce qui concerne Marie, la lecture des évangiles dessine pourtant une magnifique figure d'humanité. Oui, une sœur humaine, touchée par la grâce, avec ses doutes, ses souffrances, ses renoncements et tellement de gratitude aussi. Et cette lecture débarrassée des a priori témoigne également que la grâce que Marie a accueillie ne lui est pas réservée et que ce qui naît ainsi de la grâce vient au monde aussi bien par les femmes que par les hommes. La seconde, c'est Marie de Magdala. Parce qu'il est bien difficile de tout oublier, tout ce qui a été peint, écrit, filmé, tout ce qui a été dit au sujet de Marie de Magdala. Quand il faut revenir au texte biblique, on a tellement en tête la pénitente, la pécheresse repentante, l'amante ou l'épouse de Jésus, l'ermite dans la grotte de la Sainte Baume, la sainte, la Madeleine en pleurs. C'est difficile de se détacher de la prégnance de la figure construite par les pères de l'Église, à commencer par Augustin, évêque d'Hippone, 4e-5e siècle, suivi du pape Grégoire Ier, dit le Grand, au 6e siècle, a remarqué l'exception des pères grecs dans cette composition d'une seule femme à partir de trois qui, elles, sont bien présentes dans les évangiles. Marie de Magdala, dont Luc signale que Jésus l'a libérée de sept démons. Marie de Béthanie, qui oint les pieds de Jésus dans l'évangile de Jean, et la femme aux longs cheveux, la pécheresse, écrit Luc, qui fait de même oindre les pieds de Jésus lors d'un repas chez Simon le pharisien. Les trois réunies en une composent cette pécheresse repentante, cette prostituée dont l'un des 7 démons était forcément celui de la luxure, une sexualité débridée, propre à mettre en danger ces pauvres hommes. Pourtant, la possession démoniaque n'est pas assimilée au péché dans les évangiles. La possession démoniaque dans les évangiles, c'est l'impossibilité de vivre sa vie. Et c'est une profonde souffrance dont Jésus guérit celles et ceux qui en pâtissent. Plusieurs évangiles apocryphes, c'est-à-dire qui n'ont pas été retenus dans le canon des livres bibliques, les livres considérés comme propres à éclairer et à nourrir la foi des chrétiennes et des chrétiens, par exemple l'évangile de Pierre, l'épître des apôtres, ou alors les évangiles de Marie, de Thomas et de Philippe, 3 écrits gnostiques, ces évangiles apocryphes confèrent à Marie de Magdala une place éminente dans l'ensemble des disciples, bien que Pierre la lui conteste parfois avec virulence. Dans les évangiles canoniques, Marie de Magdala est d'abord une femme indépendante, puisque son identité est rapportée à une ville et non à un homme, père ou mari. Elle est une femme riche, selon Luc, une de celles qui mettent leurs ressources à disposition de Jésus comme les disciples qu'elles sont. Elle est au matin de Pâques, seule pour Jean, avec d'autres femmes pour Matthieu, Marc et Luc, présente au tombeau vide et envoyée annoncer aux disciples la bonne nouvelle de la résurrection. Et Luc ne craint pas d'écrire que les disciples ne les crurent pas en pensant que c'était des niaiseries. Qui est critiqué là vraiment quand Luc écrit cela ? L'évangéliste Jean, lui, dans un sublime dialogue entre Marie et le ressuscité, la présente comme celle qui est envoyée, apôtre avant tous les hommes, annoncer la résurrection du Christ. Et dans ce récit de Jean, Marie de Magdala passe de l'emprise de la mort et du deuil à la restauration dans une existence renouvelée, ce qui, en langage biblique, se dit résurrection. Les théologiennes féministes, avec Elisabeth Schussler-Fiorenza, se sont efforcées de retracer la double tradition concernant Marie de Magdala dans les débuts du christianisme, celle de l'évangile de Jean, qui fait d'elle un modèle du disciple et de la disciple reconnaissant la voix du bon berger, une figure donc ouverte aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et puis la tradition du courant pétrinien majoritaire qui s'efforce de gommer l'importance de Marie de Magdala au profit de Pierre, privilégiant ainsi l'androcentrisme de l'Église naissante. Quant à l'apôtre Paul, il ne cite pas le nom de Marie de Magdala dans la liste des témoins des apparitions du ressuscité qu'il rapporte en 1 Corinthiens 15. Ce peut être parce qu'il n'en a pas parlé, entendu parler, parce que les traditions qu'il a reçues n'étaient pas favorables à Marie de Magdala. En tout cas, Paul cite dans ses épîtres suffisamment de femmes avec lesquelles il travaille et envers lesquelles il est profondément reconnaissant pour ne pas le suspecter de misogynie. C'est pourtant ce qui a longtemps été fait concernant l'apôtre Paul. Et c'est là que nous entrons dans la troisième et dernière partie de cet exposé, et je vous invite à prendre la feuille que vous avez trouvée dans les pages, dans la feuille de culte. Est-il possible de les répartir pour qu'il y en ait au moins une pour deux ? Il s'agit d'un extrait de la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 11, les versets 3 à 16, dont vous avez le texte et qui concerne les femmes qui prient et prophétisent dans la communauté de Corinthe. On ne va pas le lire, vous l'avez là sous les yeux. La première remarque, c'est que justement, les femmes prennent la parole à Corinthe. Prières et paroles prophétiques dans l'assemblée, et qu'à aucun moment, ni d'aucune manière, l'apôtre le leur interdit ou limite leur prise de parole. Ce qui motive l'intervention de Paul, cette partie de l'épître, peut seulement être déduit de ce qu'il écrit. Et il semble bien que ce soit une question de tenue vestimentaire. Plus particulièrement, le fait que les femmes soient tête nue quand elle prie et parle. L'absence d'un couvre-chef, pièces de tissu, châles, voiles, chapeaux, ça ne se disait pas à l'époque, a choqué et scandalisé suffisamment de personnes de la communauté pour que Paul ait été questionné à ce sujet. Ce qui est en cause pour les Corinthiens, c'est le manque de décence et de pudeur de Sophrosyné, de ces femmes qui parlent sans avoir la tête couverte, contrairement à ce que leur imposent les normes sociales. Alors vous verrez que ce n'est certainement pas le passage de ces épîtres dans lequel Paul se montre à la fois le plus clair et le plus convaincu. Et d'ailleurs, il l'admet d'une certaine manière au verset 16, puisqu'il précise, et c'est la seule fois dans ses épîtres, « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude, et les églises de Dieu non plus, et c'est bien parce qu'il entrevoit tout ce qu'on peut discuter de son argumentation. » Et d'ailleurs, la première discussion étant de savoir « Mais qu'est-ce que Paul a voulu dire ?» En effet, entre le verset 5 « Toute femme qui prie et prophétise la tête non couverte fait honte à sa tête, oh, » qui est l'homme hein, d'ailleurs, c'est au verset au-dessus, « c'est comme si elle était rasée. » Et le verset 15 « Pour une femme, c'est une gloire » alors de porter les cheveux longs, contrairement aux hommes, « car déjà sa chevelure lui a été donnée en signe de vêtement. » Ben, que faut-il choisir ? Alors, les cheveux, ça suffit ou ça suffit pas ? L'argument de la nature, pour le coup, et vous me permettrez un peu tirer par les cheveux, parce qu'il me semble quand même que les cheveux des hommes poussent autant que ceux des femmes. C'est juste qu'on ne les coupe pas forcément au même rythme, et encore. Alors, est-ce pour Paul une manière de ne pas trancher ? Une manière qui révèle l'embarras devant lequel le plonge cette question ? Parce que ce n'est pas du tout ce qui l'intéresse, la tenue des femmes. Est-ce que c'est une manière de préserver le droit de parole des Corinthiennes ? Même au prix d'une tête couverte, si c'est ainsi que l'on comprend son texte. Mais afin quand même qu'elle puisse parler et être écoutée. Et puis surtout, enfin, que viennent faire les anges dans cette histoire ? On peut se le demander, mais je partagerai volontiers avec toutes les femmes prenant la parole en assemblée d'église l'image que lorsque nous parlons, il y a un ange au-dessus de nos têtes. Ça. L'argumentation de Paul est très alambiquée. Et ce sur quoi il insiste véritablement, là où il est très clair, c'est sur la réciprocité des relations entre hommes et femmes et sur leur commune situation devant Dieu en Christ. Au verset 11 et 12, ces deux versets sont introduits par un « toutefois ». Et là, c'est vraiment l'apôtre qui s'exprime avec le fond de sa pensée, l'importance de ce qu'il veut dire. C'est le cœur de son message, présent également dans bien d'autres épîtres, en bien d'autres circonstances. L'identité d'une personne n'est pas décidée par les regards portés sur elle par la société, mais par la relation intérieure que cette personne entretient avec elle-même en Christ. Une autre expression en est donnée dans ce passage très célèbre de l'Épître aux Galates. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et toutes les relations humaines se vivent alors sous le signe de la réciprocité, dans ce que Paul appelle également la soumission réciproque, ou la disposition à considérer autrui comme supérieur à soi-même, ce qui induit des relations de sujet à sujet en égale dignité. Il est vrai que cette dignité reconnue aux femmes par Paul n'a pas longtemps résisté à la pression de l'environnement patriarcal. Et outre l'ajout honteux dans la première aux Corinthiens dont j'ai déjà parlé en début de l'exposé, d'autres auteurs se réclamant parfois de lui ont refermé l'ouverture paulinienne en instaurant à nouveau une hiérarchie entre hommes et femmes, l'auteur de la première à Timothée, de l'épître à Tite, de la première de Pierre, même si l'étude attentive de ces textes permet de les nuancer. Les femmes ont été repoussées dès le IIe siècle à un rang secondaire par l'Église et ses autorités toutes masculines, ce que l'adoption ultérieure dans l'Église de valeurs de conquête, de pouvoir et de domination, même au nom de l'Évangile et pour sa cause, a encore renforcé. Pour en revenir aux Corinthiennes et à ce que Paul écrit, ce qui détermine alors la place dans les églises des unes et des autres et de leurs relations échappe pourtant à ce que Paul évoque lui-même quand, dans ce passage au verset 8 et 9, il se réfère à ce qui est devenu un argument majeur de l'Église pour la minorisation des femmes. Ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. En effet, l'homme ne fut pas créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Mais cela est tout à fait discutable. Tournez la feuille. En Genèse 2, il faut quand même le dire et le redire, et nous devons ne pas cesser de le dire et de le redire, la femme n'est pas tirée de la côte d'Adam. Cette monstruosité de traduction est pourtant tellement ancrée dans le paysage que même celles et ceux qui ne sont jamais entrés dans un temple ou dans une église et qui n'ont jamais ouvert la Bible l'ont entendue et hélas souvent retenue, soit pour légitimer un comportement affreusement sexiste, soit pour envoyer promener la religion, la Bible et Dieu aux oubliettes de la pensée dans un passé barbare. Il suffit pourtant de traduire les mots du texte hébreu pour lire un autre texte que celui qui hante et déforme les esprits des hommes et des femmes. Dans cette traduction, j'ai pris le texte de base de la Nouvelle Bible Second, qui n'est pourtant pas très ancienne. Et vous voyez que j'ai rectifié quelques points. Ce n'est pas l'homme qui a été modelé au verset 7 précédemment dans le récit. C'est un humain. Ni homme ni femme, un humain et un seul. Et l'humain, Adam, en grec, en hébreu, ce n'est pas un nom propre dans le récit. Cela signifie le glébeux ou le terreux. L'humain n'est pas genré à ce moment-là. Ce qui est en question, par contre, c'est sa solitude. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Dieu lui-même n'est pas l'interlocuteur ou le partenaire qui engagera une histoire avec cet humain. Les animaux ne le sont pas non plus. L'humain les nomme, mais il ne trouve pas ce qu'il lui faut. Ce que l'Éternel veut dans ce récit, pour que l'humain ne soit pas seul, c'est lui faire un secours qui soit comme un vis-à-vis. Et toutes les traductions qui font lire autre chose, par exemple une aide qui soit son vis-à-vis, une aide qui lui soit accordée, une aide qui lui convienne parfaitement, une aide semblable à lui, une aide comme quelqu'un devant lui, toutes ces traductions déforment gravement le texte au détriment des femmes. Dans la Bible hébraïque, les autres usages du terme malheureusement traduit par « aide » et que j'ai traduit par « secours » se rapportent à Dieu lui-même, parce qu'il s'agit d'un secours vital. Un secours indispensable à l'existence, pour l'existence de l'humain qui seul ne survit pas. Ce n'est pas une aide, parce qu'une aide, on peut facilement l'assigner à une place secondaire, un coup de main que l'homme en a besoin, une subalterne qu'on cantonne dans certaines tâches, une subordonnée qui doit être dirigée. C'est un secours vital. Affaiblir le sens du mot, c'est rétrécir cette place est conditionnée en ce sens l'ensemble, la lecture de l'ensemble. D'autant plus que ce secours vital est bien un vis-à-vis. Il est ici question là d'une différence et d'une égalité, ce que nous autres humains avons le plus grand mal à penser, une différence qui ne soit pas une hiérarchie, une différence qui ne se dégrade pas en domination. Vis-à-vis, c'est visage à visage, même hauteur, sinon ce n'est plus un vis-à-vis. Il se peut même que le vis-à-vis puisse donner lieu à une confrontation, front à front. Ce n'est pas exclu. Mais là aussi, sans subordination de l'un ou l'une par rapport à l'autre. L'humain a besoin d'un secours en vis-à-vis. Et c'est ainsi que la femme est construite. À partir d'une opération quasiment chirurgicale dans laquelle il n'est pas question d'une côte. Pour une raison très simple. Le mot hébreu ne veut jamais dire côte. Sauf dans ce texte-là. Devinez pourquoi. Il signifie côté. Et un côté, ce n'est pas une côte. Un côté, c'est une partie qui n'est pas accessoire, parce qu'un côté, ça peut aller jusqu'à la moitié. Ce n'est pas un petit os, pas très indispensable, qui est pris à l'humain. C'est un côté qui lui est pris. Et ce qui reste de l'humain à qui un côté a été pris pour en faire la femme, eh bien, ça c'est l'homme. Qui, comme est un côté de l'être humain et en même temps, comme la femme, pleinement un être humain. Homme et femme. Il faut que la traduction ait beaucoup biaisé le texte pendant très longtemps pour que ce récit devienne la justification de la place seconde et définitivement seconde de la femme par rapport à l'homme, tel que Paul l'évoque dans son épître aux Corinthiens, mais ce n'est pas si clair que ça en ce qui le concerne. Et surtout, après Paul, une grande partie des pères de l'Église, les plus influents et les plus importants. Et il faut aussi que le traducteur ne prête qu'une attention partielle à ce que l'homme dit lorsque Dieu lui amène la femme. Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, celle-ci on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Ça, c'est une parole d'homme. Oui. Et lorsqu'on la prend pour argent comptant, sans recul et sans examen, cela permet de s'obstiner dans cette désastreuse conviction de la nature seconde et secondaire de la femme par rapport à l'homme. Si nous lisons bien, d'abord l'homme ne parle pas à la femme. Ça se prolonge, ça s'est prolongé dans l'histoire. Il ne lui parle pas à elle, il parle d'elle. Ensuite, il ne parle même pas à Dieu pour le remercier quand même de lui avoir amené la femme, non ? Il parle à partir de lui-même, un bel exemple d'androcentrisme. Il parle de lui-même et il parle de ce qu'il n'a pas vu puisqu'il dormait. Alors forcément, il se trompe. On peut se demander quand même si le péché originel, c'est pas celui-là. Et la jubilation de découvrir la femme est associée au défaut de compréhension et l'interprétation n'a pas souvent corrigé la perspective. L'erreur de l'homme et le silence de la femme, qui ne proteste pas, altèrent ce bon qui était la visée du projet divin. L'être humain n'est plus seul, ils sont deux. Mais qu'est-ce que c'est difficile de devenir un homme ou une femme, et de devenir homme et femme, se reconnaissant mutuellement en relation d'égalité. La Bible n'est pas un mode d'emploi. Elle est miroir et ouverture. Elle est miroir parce qu'en se confrontant aux textes, y compris les plus terribles, le lecteur est amené à une prise de conscience des ressorts et des effets de la lâcheté, du mensonge, de la cupidité, de l'injustice, de la violence qui défigure l'humanité. Elle est ouverture parce que malgré tout, tout cela se répète de génération en génération. Elle est ouverture parce que malgré tout, elle fait signe vers d'autres chemins de vie et de vie commune. Malgré tout, le patriarcat, le sexisme, les discriminations, les hiérarchies instituées, la jalousie, la peur de l'autre différente, la Bible fait quand même passer un goût de liberté, de justice, de considération inconditionnelle d'autrui, sans aucune mièvrerie et sans aucun esprit de revanche. Et en cela, elle est témoignage pour tout homme et toute femme qui, dans son intériorité, sa conscience et son âme, est en quête d'une vérité d'être non soumise aux traditions et aux préjugés. Et cette vérité d'être ne tient pas dans un discours déjà prêt, mais elle est advenue à l'intérieur de la personne au travers d'un événement de parole qui ne se décrète pas. La Bible est témoignage qui donne à discuter, à se parler, à chercher encore, à découvrir des écarts où la pensée est relancée, à puiser dans ses ressources de quoi envisager l'existence, les relations, le monde et l'essentiel. Elle questionne la grammaire du monde et de chacun, et jusqu'à la grammaire du langage, en y introduisant une dynamique libératrice. Certes, le poids de l'histoire et des traditions est particulièrement pesant pour les femmes. Mais il a été soulevé. Ce poids a été soulevé. La chape a été fendue. Pas encore pour toutes et pour tous, mais la dynamique est quand même engagée. Et nous en sommes tous au bénéfice, femmes et hommes. Parce que les hommes ne perdent rien à ce que les femmes reçoivent une dignité semblable à la leur. Les hommes ne sont pas privés de leur capacité d'être et de devenir quand les femmes ne sont plus considérées comme secondes. Homme et femme, il les créa. Humains ensemble, à sa ressemblance, à son image, dans la même dignité et avec la même vocation. Je vous remercie.